Et le journal est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'imbroglio politique en Allemagne. On croyait se dessiner un gouvernement après l'accord de coalition de la chancelière Merkel, mais le chef de la diplomatie démissionne. Le chef de file du SPD, Martin Schulz, n'a pas résisté à la pression de sa base militante. Analyse de Pascal Thibault à Berlin, au début de ce journal. Un message pacifiste à la cérémonie d'ouverture des JO 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. Coup de projecteur sur une équipe de Corée réunifiée, mais dans la petite ville de montagne, la participation des Nord-Coréens ne fait pas l'unanimité. Reportage à suivre de Frédéric Ojardias. En France, Jean-Marine Le Pen s'accroche. L'ex-président du Front National reste exclu du parti, mais il conserve la présidence d'honneur après un jugement en appel. Jean-Marie Le Pen qui compte bien venir mettre son grain de sel à l'important congrès qui se prépare en mars. Les intempéries en Ile-de-France, il y aurait actuellement 128 mineurs étrangers en danger dans la capitale. Plusieurs avocats ont adressé un signalement hier au procureur de la République de Paris afin de leur trouver une solution. Précision à suivre de Mélanie Juvet. Et puis l'enquête du journal de 18h. Pourquoi le rugby n'est pas épargné par le dopage? Enquête signée Sylvain Tronchet à la fin de ce journal. En Allemagne, il était très critiqué par la base de son parti pour avoir accepté de rejoindre la nouvelle coalition de la chancelière Merkel. Le chef de file du parti social-démocrate, Martin Schulz, renonce à prendre la tête de la diplomatie dans le futur gouvernement. Accord de gouvernement qui doit en effet encore être validé par un référendum interne au SPD le 4 mars prochain. Vu l'imbroglio politique dans le pays, Schulz a préféré ne pas galvaniser ses opposants, Pascal Thibault.
Plus dure sera la chute. Il y a un an, Martin Schulz était adulé comme un messie par les militants SPD qui voyaient en lui le sauveur qui allait sortir le parti de l'ornière. En peu de temps, le mouvement enregistrait un bond de 10 points dans les sondages. Mais après une campagne électorale mal gérée, Martin Schulz menait son parti en septembre à une défaite historique avec 20% des voix seulement. Juste après la fermeture des bureaux de vote, le patron du SPD rejetait toute nouvelle grande coalition, accusé d'avoir mené le parti à sa perte. Peu après, il excluait toute participation en tant que ministre à un gouvernement Merkel. Deux promesses brisées qui ont détruit la crédibilité de Martin Schulz auprès de ses troupes. Des troupes peu emballées par la perspective d'une nouvelle alliance droite-gauche sur laquelle les militants doivent voter d'ici début mars. L'entrée annoncée de Schulz au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères a provoqué une levée de boucliers dans le parti. L'intéressé jette donc l'éponge pour calmer les esprits et renforcer les chances du vote sur le contrat de coalition. Un accord marqué par des compromis arrachés par le SPD aux conservateurs et que les querelles de personnes risquaient de faire passer à l'arrière-plan. Martin Schulz avait annoncé mercredi qu'il confierait les rênes du parti, si la grande coalition voit le jour, à André Annalès, la nouvelle idole de la base et par ailleurs président du groupe parlementaire SPD au Bundestag. Martin Schulz, un an après avoir été élu à 100% à la tête du parti, ne serait alors plus qu'un simple député.
Pascal Thibault, le correspondant de RFI pour France Culture. C'est un nouveau soubresaut dans les négociations sur le Brexit. Il concerne cette fois-ci la phase de transition réclamée par Londres après la sortie de l'Union européenne. Phase de transition qui doit s'échelonner de la fin mars 2019 à la fin de l'année 2020. Pendant cette période, le Royaume-Uni n'est plus censé prendre part aux décisions prises par les 27, mais Londres ne l'entend pas de cette oreille. Lakshmi Lotha, vous nous expliquez dans le détail les points de désaccord.
Le Royaume-Uni a demandé une période de transition post-Brexit, période durant laquelle le pays souhaite continuer à bénéficier du marché unique. Mais pour cela, l'UE a fait part de ses conditions. Ce sont elles qui posent problème, selon Michel Barnier, le négociateur de l'Union pour le Brexit.
Compte tenu des désaccords qui nous ont été indiqués par le Royaume-Uni et que j'ai quelques difficultés à comprendre, pour tout vous dire, puisque c'est le Royaume-Uni lui-même qui nous a demandé cette période de transition, si ces désaccords devaient subsister, il y aurait un problème, à coup sûr.
Le premier point de divergence concerne les droits des citoyens européens. Londres reconnaît le principe de la libre circulation des personnes, mais ne souhaite pas accorder les mêmes droits aux citoyens arrivés pendant la période de transition, une fois celle-ci terminée. Le gouvernement britannique veut aussi continuer à pouvoir s'opposer à de nouvelles règles votées pendant cette période si elles ne lui conviennent pas. Or, l'Union européenne a été claire, le Royaume-Uni devra se plier à la législation et ne plus participer aux décisions. Pour le négociateur européen, Londres doit accepter les conséquences inéluctables de son départ.
correspondance à Bruxelles, signée Lakshmi Lotha. Emmanuel Macron demande à Vladimir Poutine de tout faire pour mettre fin à la dégradation humanitaire dans la Ghouta orientale et à Idlib, en Syrie. Le chef de l'État s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe. Il se dit aussi préoccupé par les soupçons d'utilisation de chlore contre les populations civiles par le régime de Damas. Par ailleurs, c'est une information qui pourrait intéresser la cellule antiterroriste de l'Élysée. Les Kurdes, issus des forces démocratiques syriennes, confirment avoir arrêté le djihadiste Alexander Amon Kote. Il aurait été arrêté le mois dernier alors qu'il tentait de fuir en Turquie. Kote, d'origine britannique, faisait partie d'un groupe de djihadistes qui torturait des otages occidentaux. Pendant ce temps, en Corée du Sud, dans la petite ville de montagne de Pyeongchang, les notes de la chanson de John Lennon, Imagine, ont résonné à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, des JO décrits comme ceux de la paix dans une péninsule techniquement en guerre depuis 1953. Plusieurs symboles forts ce midi. La sœur du dictateur nord-coréen Kim Yong-jong a serré la main du président de la Corée du Sud. Et puis dans l'équipe de Corée réunifiée, deux hockeyeuses, l'une du nord, l'autre du sud, ont contribué à allumer ensemble la flamme olympique. Une image de paix qui s'apparente toutefois à un simple vernis pour les habitants qui n'ont pas hésité à protester. C'est un reportage de Frédéric Ojardias.
Ils sont une centaine de manifestants en colère réunis face au stade. Ils brandissent des drapeaux sud-coréens et américains et des pancartes sur lesquelles on peut lire « Non aux Jeux Olympiques de Pyongyang ». Monsieur Hong, retraité, est venu avec ses amis.
Nous n'acceptons pas que les Jeux Olympiques soient contaminés par la participation de la Corée du Nord. Je ne crois pas que les Nord-Coréens changeront. Nous devons protester. On a perdu la raison. C'est le problème de la Corée du Sud. Notre gouvernement est contaminé par les communistes. Nous le pensons vraiment. Nous ne lui faisons pas confiance.
Une rue plus loin, une contre-manifestation. Des étudiants dansent et agitent le drapeau de la péninsule coréenne réunifiée, bleu clair sur fond blanc, Lee Eun-hae, une représentante.
La péninsule coréenne est toujours en état de crise, mais depuis que la Corée du Nord participe aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, nombre de gens espèrent une amélioration. Il y a des gens qui s'opposent à la venue des athlètes nord-coréens et qui insultent Kim Jong-un. Mais nous voulons montrer que beaucoup d'autres soutiennent le Nord et l'équipe coréenne réunifiée.
Autour des manifestants et contre-manifestants, les touristes indifférents se pressent et se dépêchent de rejoindre le stade.
Reportage à Pyeongchang de Frédéric Ojardias, le correspondant de RFI pour France Culture. Contestation également aujourd'hui à l'ouverture du carnaval de Rio au Brésil. Le maire évangélique de la ville a dû se défendre de vouloir gâcher la plus grande fête du monde. Les nombreuses associations qui préparent chaque année les chars et les costumes ont reçu moins de subventions de la municipalité cette année. Des coupes budgétaires justifiées par l'état calamiteux des comptes publics de Rio, difficultés financières dont les Jeux de 2016 sont en partie responsables. En France, Jean-Marie Le Pen est maintenu par la justice à la présidence d'honneur du Front National, mais la cour d'appel de Versailles confirme son exclusion du parti. Décision en nuance qui évidemment contrarie le Front National. Son secrétaire général Steve Briouat prévient que l'accès au congrès du parti d'extrême droite à la mi-mars sera interdit à Jean-Marie Le Pen. « Mon père ferait n'importe quoi pour exister médiatiquement », ajoute Marine Le Pen cet après-midi. Mais Jean-Marie Le Pen, lui, compte bien assister à ce fameux congrès dans un mois.
Jean-Marie Le Pen qui compte donc se rendre au congrès du Front National, ce sera le 10 et 11 mars prochain à Lille. L'ancien président du parti a commenté la décision annoncée ce matin par Steve Briouat de lui en interdire l'accès.
Ils ont répondu du tac au tac. Je pensais que ça méritait quand même peut-être une réunion de bureau, ou peut-être une réunion du bureau politique même, pourquoi pas, pour s'opposer à la venue au congrès du président fondateur qui a dirigé le mouvement pendant 40 ans, il me semble que on aurait pu prendre des gants. Mais ils n'en prennent pas. Eh bien, on prend ça à main nue, ça fait rien.
Et quand on lui demande s'il sera de nouveau candidat aux élections européennes, Jean-Marie Le Pen, 89 ans, n'hésite pas vraiment.
Il y a 30 ans que j'aurais pu prendre ma retraite. J'aurais pris ma retraite depuis longtemps, mais moi, je me bats pour un idéal. En conséquence, je ne mesure pas mon effort. Tant que j'en ai la force, je me bats pour la France, voilà.
Toujours président d'honneur donc, mais toujours exclu du Front National. Pas de quoi décourager Jean-Marie Le Pen.
Vous savez, j'en ai fait partie pendant 50 ans, alors 45 ans, donc ce côté-là, je n'ai pas de carte à montrer, surtout à des gens qui sans moi ne serait rien.
Jean-Marie Le Pen, qui ne compte pas tirer sa révérence politique, le 1er mars prochain sortira le premier tome de ses mémoires, une occasion médiatique pour lui de donner son avis sur l'avenir du parti qu'il a cofondé et dirigé pendant 40 ans.
Merci Delphine Boulle pour cette interview de Jean-Marie Le Pen et vos précisions. Le gouvernement fait corps autour de Nicolas Hulot, accusé d'agression sexuelle. Emmanuel Macron lui aurait demandé de tenir au lendemain des révélations que le ministre de l'Environnement a catégoriquement démenties. Pascale Mitterrand, la petite fille de François Mitterrand, qui est l'auteur de la plainte déposée en 2008 contre l'écologiste, n'aurait jamais souhaité médiatiser son cas. Selon son avocat, elle-même et sa famille ne cautionnent en aucune manière la publicité donnée à cette affaire. Plusieurs avocats alertent aussi sur la situation très préoccupante, selon eux, de mineurs étrangers isolés à Paris. Ils ont adressé hier un signalement au procureur de Paris, François Molins, car selon les associations, il y aurait 128 mineurs étrangers en danger dans la capitale, des jeunes qui n'ont aucune solution d'hébergement depuis plusieurs nuits et dorment dehors avec des températures en dessous de zéro. Bonsoir Mélanie Juvet.
Bonsoir Anne.
Les avocats et les associations dénoncent des problèmes de prise en charge de ces jeunes mineurs.
Les avocats ont fait une liste de 128 réfugiés qui seraient mineurs et en situation de danger immédiat sur les 400 qui dormiraient dans les rues de Paris. Et la liste s'agrandit de jour en jour, s'alarment les associations, comme Utopia 56 qui aide les migrants. Yann Manzi est son cofondateur. Pour lui, beaucoup d'enfants sont rejetés par le service d'évaluation lorsqu'il y a un doute sur leur minorité.
Aujourd'hui, les dispositifs qui sont faits rejettent à 80% ces enfants dans le droit de leur minorité. Soit ils sont refusés au faciès, c'est-à-dire qu'on dit « bah non, toi t'es pas migrant ». Donc ils se retrouvent sans aucune solution administrative qui leur sont proposées, ou dans des rendez-vous administratifs, mais sans aucune prise en charge derrière. Ces gamins sont souvent livrés à des mois et des mois de procédures dans la rue. Donc ces enfants n'ont jamais les réponses et n'ont jamais l'espoir de pouvoir s'installer en tant qu'enfant dans une vie d'enfant.
Pourtant, selon maître Catherine Delanoë-Daoud, la loi oblige les départements à recevoir les mineurs étrangers en demande de protection. Elle travaille au pôle mineur non accompagné du barreau de Paris. Avec deux autres confrères, elle a signalé au procureur de Paris cette situation.
Le procureur, justement, a la compétence, d'après l'article 375.5 du Code civil, pour agir dans l'urgence. Parce qu'on peut saisir aussi le juge des enfants, bien sûr, mais l'urgence, ça, c'est la compétence quand il y a un danger grave et immédiat pour la vie de tous ces jeunes. En dehors de la minorité, de toute façon, le Code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité de protéger les jeunes même jusqu'à 21 ans. Donc, il faut faire quelque chose. On ne peut pas les laisser comme ça dans la rue.
Du côté du département de Paris, on dénonce le fait que cette liste de jeunes ne leur n'a pas été transmise. Le département indique que 1400 mineurs isolés sont pris en charge actuellement. 300 jeunes en attente d'évaluation de leur minorité sont aussi hébergés. Les avocats et les associations attendent une réponse de la part du procureur de Paris pour ouvrir des places en urgence à ces jeunes.
Merci Mélanie Juvet pour vos explications. Le gouvernement a dévoilé ce midi son plan de réforme de l'apprentissage. 20 mesures pour attirer davantage de jeunes dans ce dispositif. La barrière d'âge est repoussée à 30 ans. Hausse de la rémunération et une aide au financement du permis de conduire qui va s'élever à 500 euros. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Le projet de loi va sortir au printemps. Réforme qui donne lieu à d'intenses batailles parce qu'elle change la philosophie même de l'apprentissage et surtout le rapport d'équilibre entre les régions et les entreprises dans la gestion du dispositif.
Oui, c'est autour du monde de l'entreprise que devra tourner l'apprentissage. C'est ce que l'exécutif appelle sa révolution copernicienne. La philosophie générale de la réforme consiste à passer d'une logique administrée par les pouvoirs publics à un système régulé par le monde professionnel. Les employeurs gagnent ainsi la liberté de gérer l'ouverture de centres de formation jusqu'alors prérogative des régions. Toute une série de mesures répondront ainsi aux attentes des employeurs, a souligné le Premier ministre Édouard Philippe.
C'est la marque des systèmes qui fonctionnent chez nos voisins. Et donc nous voulons faire en sorte que le contenu des enseignements soit défini par un partenariat efficace entre les branches professionnelles et l'éducation nationale. Que le monde professionnel puisse ouvrir les centres de formation là où existent effectivement des besoins sur le marché du travail. Deuxième idée forte, libérer, déverrouiller les capacités de développement de l'offre d'apprentissage en réformant le mode de financement.
La taxe d'apprentissage dont 51% était auparavant reversée aux régions va être remplacée par une contribution alternance unique pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Et nouveauté, dans une logique de marché, les centres de formation seront désormais financés au nombre de contrats signés. Les régions, elles, devraient finalement récupérer 5% de cette contribution, soit environ 250 millions d'euros, afin de compenser les inégalités territoriales. Insuffisant, estime François Bonneau, président délégué des régions de France.
Le compte aujourd'hui n'y est pas. Le compte n'est pas, les moyens qui sont accordés pour cette modulation ne permettront pas de répondre aux besoins pour avoir des CFA de proximité, des branches de proximité. Le deuxième point, le compte n'y est pas non plus sur l'orientation. Les jeunes n'ont pas la possibilité de connaître la formation professionnelle. Nous voulons pour cela qu'un dispositif d'orientation confié aux régions soit mis en place et les réponses qui sont accordées aujourd'hui sont extrêmement floues. Nous considérons que les avancées sont là-dessus très, très insuffisantes.
Et c'est désormais sur ce terrain que les régions ont déplacé la négociation. Reste à savoir quelles implications concrètes cela signifierait de confier aux régions plutôt qu'à l'éducation nationale la responsabilité de l'orientation. Cela fera partie des discussions des jours à venir.
Merci Catherine Pétillon pour vos explications. Il est 18h16 sur France Culture. L'enquête de cette édition, quand le dopage gangrène le rugby, à deux jours de la rencontre entre l'Écosse et la France dans le tournoi des Six Nations. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Anne.
C'est l'un des grands tabous de la planète du ballon ovale. Certains joueurs ont recours à des produits plus ou moins légaux.
Et commençons par un constat. Les rugbymen internationaux ont pris en moyenne 1,5 kg de muscles entre chaque Coupe du Monde depuis 1987. C'est énorme. Alors évidemment, les méthodes d'entraînement, l'alimentation y sont pour beaucoup, mais certaines évolutions interrogent. Comme les soudaines prises de poids des rugbymen néo-zélandais vers 1995, phénomène étudié par un chercheur, Adrien Sedeau, de l'Institut Hermès.
Chez les Blacks, ils sont passés en 95 à un poids moyen des arrières aux alentours de 85 kg, à 4 ans plus tard à 95 kg, donc c'est presque 10 kg sur une courte période de temps. Et pour les avants, ils étaient aux alentours de 100 kg en 95 et se retrouvent 2-3 ans après à près de 110 kg. Donc c'est des prises très massives sur des laps de temps courts qui sont similaires à ce qu'on avait pu constater sur les sports américains.
Et s'il parle des États-Unis, c'est parce que là-bas, on a baptisé cette période l'ère des stéroïdes, ces produits qui permettent de prendre du muscle. D'autres témoignages confirment leur utilisation massive dans l'hémisphère sud, notamment en Argentine dans les années 90.
Les Néo-Zélandais, les Argentins et les Français sont-ils concernés, Sylvain ?
Alors, les évolutions de poids des joueurs de l'équipe de France sont moins suspectes. Néanmoins, il a pu arriver que l'encadrement des Bleus ait de gros doutes. C'est ce que m'a révélé l'homme qui était en charge pendant 20 ans de la lutte contre le dopage à la Fédération française de rugby jusqu'à l'an dernier. Christian Bagat m'a expliqué qu'il est arrivé qu'on ne sélectionne pas certains joueurs alors qu'ils avaient pourtant leur place.
On multiplie les analyses en équipe de France. On voit très très vite des choses. Et s'il y a des choses qui ne font, ils ne sont pas sélectionnés. Parce qu'il y a quelque chose qui nous fait douter. Voilà, c'est arrivé. On n'a jamais crié, on n'a jamais dit, mais voilà, c'est arrivé. Et ces gens-là, ils ont compris. À un moment donné, ils ont travaillé un peu plus pour essayer de devenir ou de revenir.
Des soupçons donc autour de certains internationaux, tout comme l'affaire dite des corticoïdes qui avait alimenté les soupçons autour du champion de France 2016. Le Racing, dont 3 joueurs avaient été contrôlés positifs aux corticoïdes avant d'être blanchis. Motif, ces anti-inflammatoires sont autorisés dans certaines conditions à l'entraînement. Une aberration pour l'ancien pilier de l'équipe de France, Laurent Bénézèche.
Les corticoïdes, c'est l'hormone du courage. Et donc les corticoïdes permettent de pouvoir passer, pour le joueur de rugby, d'un match le week-end avec des douleurs dues au choc, sur un bloc de travail du lundi au mercredi, et tenir les cadences infernales qui sont aujourd'hui demandées aux sportifs de haut niveau.
Et puis Sylvain, il y a d'autres produits qui ne sont pas interdits mais qui sont encore plus surprenants.
Oui, parce que les corticoïdes, pour être encore plus efficaces, seraient associés à un autre produit interdit en match, lui aussi, mais pas à l'entraînement, la cocaïne. Alors évidemment, la cocaïne est prohibée par le code pénal, mais on ne risque aucune sanction sportive à l'utiliser hors compétition. On parle de dopage LMM, a expliqué Jean-Pierre Verdi, l'ancien directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
LMM, c'est lundi, mardi, mercredi où la cocaïne s'est utilisée pour estomper les effets des chocs du week-end précédent. Comme la cocaïne reste 48 heures maximum, elle est plus détectable après, ils peuvent jouer le samedi et le dimanche. Et comme ce sont des produits qui sont autorisés à l'entraînement, c'est utilisé.
Alors c'est vrai, il y a peu de contrôles positifs, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément un bon indicateur. Et le rugby est clairement placé sous surveillance. L'Agence française de lutte contre le dopage l'a classé parmi ses 5 sports prioritaires en termes de contrôle pour 2018.
Merci Sylvain Tronchet. Votre enquête est à lire en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo, plus que 16 départements en vigilance orange, neige, verglas, surtout dans le sud de la France. Demain samedi 10 février, le ciel sera globalement lumineux, sauf en Bretagne et sur la pointe du Cotentin. Grand soleil dans les Hauts-de-France, un peu plus voilé en région parisienne et dans l'Est. Les températures, ça reste froid. 4 à Paris, Strasbourg et Lyon, 5 à Lille, 8 à Bordeaux, 9 à Brest et jusqu'à 10 à Marseille.